Vous écoutez, on lit pour vous.
Des attitudes anti-avortement existent dans le réseau de la santé québécois. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 9 décembre 2025 dans Le Devoir. Des attitudes et discours anti-avortement sont présents dans le réseau de la santé québécois, selon un rapport de recherche obtenu par Le Devoir. Ses auteurs recommandent notamment de renforcer la formation universitaire médicale sur l'interruption volontaire de grossesse, IVG. Certains membres du réseau de la santé affichent des positions anti-avortement tout en se disant pro-choix, mais avec des limites quant à certains types d'IVG, observe Véronique Pronovo, doctorante en sociologie à l'Université du Québec à Montréal, et autrice principale du rapport présenté par la Fédération du Québec pour le planning des naissances, FQPN. D'autres, sans en avoir l'intention, adoptent des comportements ou des discours aux conséquences délétères, poursuit-elle. Par exemple, des commentaires sur le fœtus ou l'embryon lors de l'échographie pré-avortement ou encore des professionnels qui exigent un temps d'attente ou requièrent plus d'un rendez-vous avant l'intervention elle-même. Le rapport, intitulé « Quand le consensus vacille », étale les lieux du mouvement contre l'avortement au Québec, s'inscrit dans le cadre du plan d'action gouvernemental sur l'accès à l'avortement 2024-2027 du secrétariat à la condition féminine. Les auteurs se sont penchés sur les milieux communautaires, religieux, politiques, juridiques et numériques, ainsi que sur le système de santé. L'étude s'appuie sur de l'observation participante, une analyse documentaire en ligne et des groupes de discussion réunissant 28 femmes travaillant dans le système de santé ou en milieu communautaire. Le document ne quantifie pas l'ampleur des discours et attitudes anti-avortement dans le réseau de la santé, souligne Jess Legault, coordonnatrice générale de la FQPN. Il fait toutefois état de témoignages à cet égard. L'idée n'est pas de mettre en cause l'ensemble du système de santé, précise Véronique Pronovo. Le réseau, il se dit pro-choix, mais le but est plutôt de montrer qu'il y a quand même des failles. Renforcer la formation. Dans le rapport, des femmes racontent n'avoir reçu qu'un enseignement sommaire, voire inexistant, sur l'IVG durant leurs études médicales au Québec. La FQPN recommande donc notamment de renforcer la formation de base sur l'avortement dans les programmes de médecine. L'idée n'est pas que tout le monde soit capable de pratiquer des avortements de manière technique, indique Véronique Pronovo. Le but est plutôt que les futurs médecins connaissent les meilleures pratiques en la matière, soutient-elle. Le rapport mentionne aussi des propos hostiles, voire culpabilisants, à l'égard de l'IVG de la part de médecins superviseurs de stage. Quand on est jeune médecin, ça peut influencer nos choix de carrière, souligne Jess Legault. Appelée à réagir, la Conférence des doyennes et doyens des facultés de médecine du Québec écrit que les programmes des quatre facultés ont été revus ces dernières années. L'autonomie des patientes et l'avortement sont abordés durant les deux premières années du doctorat de premier cycle en médecine. Sans commenter un rapport qu'elle n'a pas encore pu consulter dans son intégralité, la conférence se dit néanmoins préoccupée par des comportements ou des paroles hostiles à l'avortement. Elle invite aussi les étudiants et les résidents à lui faire part de toute inquiétude vécue dans leur parcours universitaire. Une équipe volante? Au Québec, il n'existe pas de date limite légale pour se faire avorter. Depuis 2019, la province offre des avortements au troisième trimestre qui étaient auparavant réalisés aux États-Unis. Selon le rapport, ces IVG représentent moins de 0,1% de l'ensemble des avortements effectués dans la province, soit environ une trentaine par année. Les patientes concernées vivent souvent des situations complexes comme de la violence conjugale, de la consommation où un diagnostic de malformation fœtale indique Jesse Legault. Pour ces avortements au troisième trimestre, des témoignages recueillis font cependant état de contextes de soins marqués par la réticence, la désorganisation et parfois l'hostilité ouverte du personnel, souligne-t-on dans l'étude. Les réticences ne s'expliquent pas toujours par des convictions religieuses ou idéologiques, précise Mme Pronovost. Il y a aussi parfois la lourdeur émotionnelle de l'acte ou un manque de préparation et de soutien, ajoute-t-elle. Le rapport recommande donc la création d'une équipe volante provinciale spécialisée en IVG au troisième trimestre, composée de professionnels stables et formés aux dimensions cliniques, psychologiques et éthiques de ces situations. Joint par Le Devoir, Santé Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux ont tous deux dit vouloir consulter l'ensemble du rapport avant de le commenter. S'abstenir d'intervenir sur le plan législatif. Dans son projet de Constitution du Québec, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, souhaite y inscrire que l'État protège la liberté des femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Or, la première recommandation du rapport présenté par la FQPN est plutôt de s'abstenir d'intervenir sur le plan législatif en matière d'avortement. Cela comporte plus de risques que d'avantages, soutient Véronique Pronovost, car légiférer ouvre la porte à d'éventuelles restrictions de ce droit. Avec la disposition prévue dans la Constitution, nous ne légiférons pas sur le droit à l'avortement. Nous venons plutôt créer une obligation pour l'État du Québec de protéger la liberté des femmes d'y recourir, si par exemple un jour elle était attaquée, rétorque le cabinet de M. Jolin-Barrette, qui dit attendre de consulter le rapport en entier avant de le commenter. C'était « Des attitudes anti-avortement existent dans le réseau de la santé québécois », un texte de Florence Morin-Marteuil paru le 9 décembre 2025 dans Le Devoir.
L'alimentation intuitive, comment ça fonctionne? Un texte commandité paru le 24 novembre 2025 dans la presse. Dans l'alimentation intuitive, il n'existe ni bon ni mauvais aliment et les restrictions ne font jamais partie du menu, bien que certains principes l'encadrent. Comment intégrer concrètement cette approche au quotidien sans culpabiliser? Survol de ce concept rempli de sens avec la nutritionniste diététiste Marjolaine Cadieux, autrice du livre « L'alimentation intuitive, c'est quoi ?» Qu'est-ce que l'alimentation intuitive ? Basée sur 10 principes, cette philosophie, qui prône la flexibilité et la bienveillance, se situe aux antipodes de la culture des diètes. Elle consiste essentiellement à développer une relation saine avec la nourriture en considérant autant les envies que les besoins. L'alimentation intuitive, ce n'est pas juste de manger ce qui nous tente. On doit aussi penser à nos besoins et savoir reconnaître les signaux de faim et de rassasiement, précise Marjolaine Cadieux. Ici, tous les aliments sont banalisés, y compris ceux traditionnellement associés à la malbouffe. Marjolaine Cadieux donne un exemple. Je me réveille le matin avec une envie de poutine. Mais je travaille tout l'avant-midi. Si je me laissais tenter par cette envie, je ne me sentirais probablement pas bien. j'aurai soif parce que c'est salé, ou encore très faim peu de temps après parce que ce n'est pas un déjeuner soutenant. L'alimentation intuitive, c'est plutôt d'apprendre à trouver un équilibre entre ses envies et ses besoins. Je pourrais décider, par exemple, de manger une poutine plus tard dans la journée ou d'en manger une petite portion. Les 10 principes de l'alimentation intuitive. 1. Rejeter la culture des diètes. 2. Honorer sa faim. 3. Faire la paix avec les aliments. 4. Cesser de catégoriser les aliments. 5. Découvrir le plaisir de manger. 6. Considérer sa sensation de rassasiement. 7. Vivre ses émotions avec bienveillance. 8. Respecter son corps. 9. Ressentir les bienfaits du mouvement. 10. Honorer sa santé et ses papilles gustatives. D'où ça vient? Si sa grande popularité sur les réseaux sociaux peut laisser croire qu'il s'agit d'un courant nouveau, l'alimentation intuitive remonte pourtant aux années 1990. À l'époque, ça a été développé en réponse à la culture des diètes, souligne la nutritionniste diététiste. Selon elle, le retour en force de l'alimentation intuitive s'explique en partie par l'intérêt renouvelé pour les diètes, comme le régime cétogène et le jeûne intermittent. Il y a un effet de balancier. Avec les tendances, on passe souvent d'un extrême à l'autre. L'alimentation intuitive se vit différemment pour chaque personne. Elle s'adapte selon le stade de vie, les objectifs et les besoins. Ça fluctue toujours, ce n'est pas rigide comme une diète, nous dit Marjolaine Cadieux. À qui ça s'adresse? C'est un outil qu'on peut utiliser à certains moments, mais ça ne convient pas à tout le monde, estime-t-elle, en prenant l'exemple d'une personne qui souffrirait d'anorexie. On ne pourrait lui demander de se connecter à son sentiment de rassasiement. La faim, ça s'exprime d'une multitude de façons. Ça ne doit pas être intense. Le simple fait de penser à de la nourriture est un signe de faim. Y a-t-il des bienfaits qui y sont associés? L'alimentation intuitive présente plusieurs avantages aux yeux de la nutritionniste diététiste. D'abord, elle favorise une plus grande variété alimentaire et aide à maintenir de bonnes habitudes. On y associe aussi un meilleur équilibre psychologique, moins de culpabilité, une relation plus saine avec la nourriture et une image corporelle plus positive, explique-t-elle. Par où commencer? Avant de se lancer, mieux vaut s'informer sur le sujet. Si on y va à tâtons, ça risque de ne pas durer longtemps, dit Marjolaine Cadieux. Dans son guide pratique, elle présente d'ailleurs une façon visuelle d'aborder l'alimentation intuitive, dans laquelle les choix alimentaires sont guidés par 3 sphères interreliées, l'intuition, la tête et les signaux corporels. L'intuition, c'est l'envie de se faire plaisir en mangeant. Elle fait partie intégrante de l'alimentation intuitive. La tête réfère aux connaissances en matière d'alimentation équilibrée, ainsi qu'aux émotions. Pour pratiquer l'alimentation intuitive, il est important de savoir reconnaître les signaux de la faim et du rassasiement. C'était l'alimentation intuitive, comment ça fonctionne, un texte commandité paru le 24 novembre 2025 dans la presse.
Le Le Canada pourrait-il parvenir à éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici 2040? Un texte de Gaëlle Lucia Aberdou, paru le 18 du 11e mois 2025 dans Ici Radio-Canada. Le Canada s'est donné comme cible d'éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici 2040, un objectif qui repose en bonne partie sur une arme puissante, un vaccin. S'il y a un cancer qu'on est capable de ne plus avoir, c'est celui-là, estime l'hémato-oncologue Denis Soulière, porte-parole scientifique et médicale de la Société canadienne du cancer, SCC. Près de 1650 Canadiennes seront atteintes d'un cancer du col cette année et 430 en mourront, selon les plus récentes projections publiées par Statistique Canada et la SCC, des données qui stagnent selon cette dernière. Le cancer du col est quasiment toujours lié au virus du papillome humain, VPH. Or, le premier vaccin contre le VPH a été homologué il y a maintenant près de 20 ans. Vacciner, oui, mais au bon moment. Le Québec a lancé sa campagne de vaccination en 2008 en ciblant d'abord les jeunes filles à partir de la quatrième année du primaire. En 2016, la vaccination des garçons a été ajoutée au programme. C'est l'infection transmissible sexuellement la plus fréquente et contre laquelle les mesures barrières comme le condom ont une efficacité limitée, explique Chantal Sauvageau, médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec et professeur à la faculté de médecine de l'Université Laval, qui est aussi membre du comité sur l'immunisation du Québec. C'est pourquoi il est important que ces vaccins soient donnés avant le début de l'activité sexuelle. Il existe des dizaines de types de VPH différents. La plupart de ces infections passent inaperçues, mais certains types peuvent causer des verrues génitales, aussi appelées condylomes, et d'autres, des cancers comme celui du col de l'utérus. Le premier vaccin protégeait contre 4 types de VPH. Celui qui est administré aujourd'hui en cible 9, 2 responsables des condylomes et les 7 principaux responsables de cancer. Comme ces maladies mettent du temps à se développer, les études sur la diminution des cancers attribuables à la vaccination sont relativement récentes. Par exemple, dans une analyse menée au Danemark auprès de plus de 850 000 femmes et publiée en 2021 dans le Journal of the National Cancer Institute, les auteurs ont conclu que les femmes vaccinées avant l'âge de 16 ans avaient 86 % moins de cancers du col de l'utérus que celles qui n'étaient pas vaccinées. Pour Chantal Sauvageau, qui a participé à l'implantation des campagnes de vaccination et suivi leurs effets depuis leur tout début, ces données confirment ce qu'elle attendait. On avait déjà, dans les premières études, une réduction de plus de 95 % des infections associées au type inclus dans les vaccins, rappelle-t-elle. Donc, si on n'a pas d'infection, on n'a pas de pré-cancer et on ne peut pas avoir de cancer. Mais on n'avait pas la donnée. Maintenant, c'est quand même agréable de voir 3 ou 4 études qui montrent l'impact réel sur l'issue qu'on veut ultimement prévenir, à savoir le cancer. Un miracle. À la clinique de gynécologie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM, le quotidien de la docteure Marie-Hélène Mérand fait foi de ce qu'on peut lire dans ses études. Récemment, une médecin résidente a insisté pour voir une patiente qui présentait des condylomes. J'ai réalisé qu'on était arrivé à un moment où des gynécologues en formation ne verront pas de condylomes, ou très peu, parce que chez les jeunes qui ont été vaccinés, on a essentiellement éradiqué les condylomes, raconte la spécialiste. De la même manière, chez ses plus jeunes patientes, la docteure Mérand détecte désormais beaucoup moins de cellules précancéreuses qui risquent de mener à un cancer. Devant un tel changement, la gynécologue, qui étudie les infections au VPH depuis près de 30 ans, parle de révolution. Elle hésite, puis se lance. Comme scientifique, on essaie de rester mesuré. Mais un vaccin peut prévenir le cancer, c'est un miracle, je trouve. Une citation de Dr. Marie-Hélène Méran, clinique de gynécologie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Vers l'élimination du cancer du col. Selon des experts, la prévention de ces cancers pourrait même mener à leur élimination d'ici une à deux décennies au Québec. Des projections faites par le groupe de recherche en modélisation mathématique et en économie de la santé liée aux maladies infectieuses que dirige Marc Brisson à l'Université Laval montrent que, si la tendance se maintient, le Québec pourrait être parmi les premiers à se débarrasser du cancer du col de l'utérus d'ici 10 à 15 ans. Il faut dire que le Québec est parmi les endroits où la couverture vaccinale est la plus élevée. Avec les dernières recommandations publiées l'an dernier par le Comité sur l'immunisation du Québec, qui suggère qu'une seule dose de vaccin confère une protection suffisante, la proportion de jeunes Québécois vaccinés atteint maintenant près de 90 %. Mais dans le reste du Canada, les taux de vaccination varient d'une province à l'autre. À l'échelle nationale, 84 % des enfants de 14 ans ont reçu au moins une dose. La couverture vaccinale est nettement moins élevée dans de nombreux pays, étant donné les inégalités incroyables, évoque M. Brisson. Par exemple, pour l'Afrique subsaharienne, l'élimination arriverait d'ici la fin du siècle, illustre-t-il. L'importance du dépistage. Pour y parvenir, les inégalités à surmonter ne concernent pas que la vaccination. Les protections qui permettent d'espérer se débarrasser du cancer du col de l'utérus tablent aussi sur la détection précoce de ces cancers et sur l'accès au traitement quand il s'avère nécessaire. D'une part, ce ne sont pas tous les types de VPH qui sont protégés par les vaccins actuellement disponibles, puis on a des cohortes qui n'ont pas eu accès à la vaccination au meilleur moment de vacciner, soit avant l'activité sexuelle, rappelle Chantal Sauvageau. Par conséquent, le dépistage préventif du cancer du col reste primordial. Et à ce chapitre, les dernières statistiques sur le cancer au Canada ne montrent pas la tendance souhaitée. S'il y a une stagnation de l'incidence du cancer du col de l'utérus, c'est qu'il y a quelque chose dans tout cela qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner, fait valoir le docteur Denis Soulière. Est-ce que nos mesures de dépistage sont suffisamment promues? Est-ce qu'elles sont suffisamment suivies? Est-ce qu'il y a une adhérence qui est adéquate pour faire en sorte qu'on ait l'inflexion qu'on devrait avoir pour le cancer du col? Par ailleurs, le test de dépistage traditionnel, le fameux test PAP, P-A-P, qui permet d'identifier des cellules anormales, est en voie d'être remplacé par une autre sorte de test plus précis qui détecte plutôt la signature génétique du virus. Un test PAP va manquer environ la moitié des précancers et des cancers, souligne la docteure Marie-Hélène Méran, alors qu'avec le test VPH, on est au-dessus de 90 %. C'est un meilleur test qui va trouver plus de précancers et de cancers et qui va les trouver plus tôt. Au Canada, le test VPH est déjà entré dans les mœurs en Ontario et en Colombie-Britannique notamment. D'autres pays l'ont adopté il y a déjà plusieurs années, par exemple l'Australie en 2017. Certaines provinces, comme la Colombie-Britannique, offrent même aux femmes de faire le prélèvement elles-mêmes et de l'envoyer par la poste pour l'analyse. Au Québec, l'Institut national pour l'excellence en santé et en services sociaux, l'INESS, l'INES, a recommandé son adoption en dépistage primaire en 2022. Pourtant, il n'est toujours pas disponible dans toutes les régions. La majorité de Montréal, qui est quand même une grande proportion de la population du Québec, n'a pas accès aux tests VPH pour le dépistage, se désole Dr. Méran. C'est extrêmement frustrant. On n'a pas l'impression de donner les meilleurs soins possibles. Le VPH à l'origine d'autres cancers. Par ailleurs, le VPH n'est pas seulement responsable des cancers du col de l'utérus. On lui attribue aussi une part de responsabilité dans des cancers génitaux, comme ceux du vagin ou du pénis, mais aussi de l'anus et de la gorge. Or, l'incidence de ces cancers augmente. Par exemple, le taux d'incidence des cancers de la tête et du cou, qui inclut ceux de la gorge, a cru en moyenne de 0,5 par année entre 2004 et 2021 chez les hommes et de 0,4 par année chez les femmes. À peu près 80 à 90 % des cancers de l'oropharynx, gorge et bouche chez les hommes au Canada sont associés au VPH, souligne Denis Soulière, spécialisé dans ce type de cancer. Clairement, il y a des éléments épidémiques du cancer de l'oropharynx chez les hommes, ajoute-t-il. Ces cancers sont trois fois plus fréquents chez les hommes que chez les femmes. Steve Bondu l'a appris à ses dépens. À l'automne 2023, sa conjointe, Mélanie, remarque une bosse sur son cou pendant qu'elle lui taille la barbe. Je lui ai dit « On n'en fait pas de cas. Je suis un homme, je suis un peu orgueilleux », raconte ce camionneur de 56 ans établi à Lac-du-Cerf dans les Laurentides. M. Bondu s'est quand même décidé à consulter. Le diagnostic n'a pas tardé. Un cancer de la gorge lié au VPH. Je pensais que le VPH pouvait juste causer le cancer du col de l'utérus chez la femme. Je ne pensais jamais qu'un homme pouvait le contracter. Jamais, jamais, jamais. Une citation de Steve Bondu, traité pour un cancer de la gorge lié au VPH. L'étonnement de son patient n'a pas surpris la radio-oncologue Ouda Bahig, qui a traité Steve Bondu au CHUM. La grande majorité des patients que je vois ont des cancers de la gorge associés au VPH. Je vous dirais que c'est la routine de ma pratique. Ça me surprend toujours, mais effectivement, quasiment tous les patients qu'on rencontre sont surpris et n'avaient jamais entendu parler de ça avant. Les VPH ne discriminent pas. Ça circule autant chez les filles que chez les garçons, tous les sexes, tous les genres, dès qu'il y a de l'activité sexuelle. Il peut y avoir des VPH, insiste Chantal Sauvageau. Comme les cancers de la gorge peuvent mettre plus longtemps à se développer que ceux du col de l'utérus, il faudra plus de temps avant que l'effet de la vaccination soit visible. Mais ça viendra, assurent les experts. Après des traitements pénibles qui ont finalement eu raison de sa maladie, Steve Bondu a levé le pied de son entreprise de camionnage. Aujourd'hui, il ne manque pas une occasion d'encourager d'autres parents à faire vacciner leurs enfants contre le VPH, comme il l'a fait récemment avec son fils de 13 ans, Charles Olivier. Ils ont trouvé un médicament contre le VPH chez l'homme et chez la femme, alors pourquoi ne pas le prendre? J'essaie d'aider le plus d'enfants possible à ne pas traverser ça, parce que c'est pas drôle. C'était le Canada pourrait-il parvenir à éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici 2040?